Et c'est marrant parce que ça gêne beaucoup les gens, ce côté pipi. Mais par contre, pour faire une sodomie, il y a du monde. Hein. Ouais.
Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes.
Femtasy, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très 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 hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, il va vous donner très très chaud. Et ben c'est parti pour notre toute dernière nuit de débauche.
Je suis débauché. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche.
Hello, bonjour, bienvenue.
Hello.
On est ravis de vous retrouver pour le dernier épisode de cette saison de débauche.
Oui, mon cœur saigne.
C'est beaucoup trop vite, mais en même temps, qui dit dernier dit un peu ouais meilleur pour la fin.
On carrément.
Donc tout est permis finalement, il n'y a absolument pas de limite aujourd'hui.
Cette pression.
Sky is the limit. Et en plus, dans cet épisode, on va parler du squirt, cette fameuse éjaculation féminine qui est source de tant de fantasmes. Alors, spoiler alert, on commence vraiment sur un énorme spoil. Hein. On vous révèle la fin de la saison. Alors oui, le squirt, c'est bien de l'urine. Donc voilà, si c'est la seule question qui vous intéresse, vous pouvez partir. Maintenant, si vous avez envie de savoir si le squirt est forcément synonyme d'orgasme, s'il est à portée de toutes, pourquoi c'est une quête aussi mythique, aussi mystique, pourquoi ça fait autant rêver et pourquoi les hommes sont aussi obnubilés à l'idée de faire de nous des femmes fontaines, alors restez bien avec nous parce que ça va vous plaire. Donc pour répondre à toutes ces questions, on est aujourd'hui accompagné de la queen du squirt, Lady Éjaculation Féminine.
Elle ouais, est dans mon CV, je l'écris à chaque ouais, fois.
En gros, ça c'est sur son LinkedIn. Elle est
exactement, j'ai pas pensé.
Elle est infirmière sexothérapeute, elle est éducatrice sexuelle, créatrice de contenu, elle a tout vu, tout lu, tout entendu sur le squirt. Bienvenue Vicu, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup. C'est vrai que je me rendais pas compte à quel point le squirt prenait beaucoup de place dans ma vie, mais j'avais pas imaginé qu'il prendrait une place supplémentaire sur mon CV, je vais y réfléchir. Merci les filles. C'est un sujet, quand on tient un compte sexo de façon générale, mais je pense quand on est même professionnel de santé, parce que j'ai des abonnés qui disent « moi j'ai demandé à ma sage-femme, j'ai demandé à mon gynéco, etc. etc. » qui pose énormément de questions, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont vraiment penchés sur le sujet, comme tout ce qui est santé sexuelle féminine de façon générale. Et du coup, moi j'en avais marre de ne pas comprendre ce qui se passait, on avait une poche secrète à l'intérieur de notre corps. Et j'avais vraiment envie, je me suis dit, bon, j'ai un peu cette chance d'avoir une formation paramédicale et psy. Et du coup, c'est parfois ce qui manque, en fait. Les thérapeutes manquent un peu de connaissances anatomiques, physiologiques, et les soignants classiques manquent un peu d'approche psy, quoi. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer de comprendre ce qui se passe déjà dans le cerveau, mais ce que ça implique sur le corps. Et voilà, le résultat est sans appel, c'est du pipi, mais je vous promets que ça va bien se passer.
on va y venir. Alors, on le dit tout de suite, Lisa et moi, on est tout sauf des expertes du sujet, donc aujourd'hui on va vraiment boire tes paroles.
Non, t'as pas le droit à la vanne. Non, je ne laisse pas passer.
Et du coup, on n'est pas du tout des experts du sujet, mais je suis quand même curieuse de savoir, Lisa, toi, ce que ça t'a inspiré, le squirt.
Alors, le squirt, pour moi, c'était la quête du Graal. Préparez-vous pour la métaphore filée. Je vous ai encore habitué. Non, cette fois-ci, je l'ai fait simple. Mais en fait, le squirt et moi, c'est une histoire assez intense. Alors, je me suis mise en tête de me faire squirter quoi qu'il en coûte il y a 5 ans.
Quoi qu'il en coûte.
Okay. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai mis sur le squirt une sorte de symbole de la meuf libérée du cul. Mais voilà, allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'était un moyen de se déconstruire. Alors que dans les faits, je me suis mise à faire tout le contraire que de me détendre du slip et de m'écouter. Donc c'était une vraie croisade, cours en ligne, atelier, bouquin, squirt, yoga. Arrête. Squirt yoga. J'ai fait la totale. Alors, je me suis cloîtrée chez moi des week-ends entiers avec des sextoys qui ressemblaient à des avions. Enfin bref, c'était une obsession. Et comme d'habitude avec le sexe, c'est au moment où j'ai arrêté de me prendre la tête et de me mettre la pression et d'essayer de me conformer à quelque chose que j'ai squirté, forcément. Et c'était rien de particulièrement spectaculaire dans mon cas aussi, donc déception. J'étais là un peu, ben, tout ça pour ça, ok. Mais quand j'ai raconté ça à mes copines, qui ne m'avaient pas vu depuis des mois d'ailleurs, parce que je ne sortais plus chez moi, elles m'ont avoué pour la plupart qu'elles avaient, j'aimerais squirter, enfin l'action de squirter dans leur liste de choses à faire avant de mourir, et certaines avant leurs 30 ans. Donc certes, mes potes sont des obsédés, mais quand même, le squirt, franchement, moi je me dis on a une relation compliquée. Voilà.
Waouh.
Ok. Ça va donner encore plus envie d'investir le sujet.
C'est plutôt Lisa va en thérapie, vous inquiétez pas, j'en ai déjà parlé à ma psy.
Mais, non, mais en fait, c'est justement, en fait, c'est on a l'impression que ça fait partie du package. En fait, il n'y a pas une pratique de toute façon qui est obligatoire, nécessaire, etc. Mais on a toujours l'impression que forcément, on passe des étapes dans notre diplôme du cul si on arrive à faire telle ou telle performance. Mais ça, c'est parce qu'on a été éduqués, pour la plupart d'entre nous, au porno. Mais même en dehors de ça, qu'on est dans une société de la performance et qu'on va toujours raconter quand on fait des performances incroyables au lit, mais on ne va jamais raconter quand c'était une grosse cata. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est simple pour tout le monde. Si on regarde un petit peu de porno mainstream, bah, du coup, on a une vision biaisée, en fait, de ce qu'est la sexualité. Et donc, voilà, on se met comme ça des to-do list du cul et la plupart du temps, on va être déçu, forcément, ne serait-ce que parce qu'on y a mis tellement d'intention que forcément, en fait, il n'y a aucune pratique qui peut, tu vois, qui est à la hauteur de ces mois enfermés dans une grotte.
J'ai jamais passé autant de temps sur un truc.
Ça, ouais, c'est comme un peu le nouvel an. Si tu l'attends, si tu prépares trop la soirée, tu vas forcément être déçu. Quoi.
Et oui, j'ai envie de dire, c'est pire, c'est comme un mariage. Enfin, le truc qui te ruine un an de ta vie, tu vois. Et parce que t'as la pression de la performance, parce que ça fait partie des cases à cocher, parce que si, parce que ça, en fait. Et que la sexualité, elle est beaucoup plus simple. Alors, évidemment, je suis partisane du fait de dire, et j'en suis persuadée que la sexualité, ça s'apprend. Ce qui s'apprend pas, c'est le coït de la reproduction. Ça, naturellement, on se débrouille pour trouver... voilà, on a un clou, on prend un marteau et puis voilà. Ouais. Mais en dehors de ça, tout ce qui est plaisir, etc., forcément, ça s'apprend. Mais vraiment, il faut que ça s'apprenne avec distance. C'est vraiment, en fait, comme un peu un loisir où on est là pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour... alors, quoique, il y a des loisirs sur lesquels les gens se mettent... Je pense au sport, etc. etc. Mais il faut vraiment se détacher du résultat, mais plutôt vivre l'expérience. Et c'est vrai que oui, ça m'étonne pas que tu aies été un peu déçue. Parce que moi, là, déjà, il n'y a pas de surprise. Je trouve que c'est surcoté à mort, comme...
J'ai bien spoilé la
Je trouve que... C'est chouette de l'avoir vécu, et en même temps, vraiment. Ça dépend, en fait. J'en parlerai après. Il y a différentes façons de squirter. Il y en a d'autres qui sont, je pense, plus plaisantes que d'autres. En tout cas, plus jouissives. Mais ouais, ça m'étonne pas que t'aies été déçue, parce que la sexualité, elle doit aussi se vivre avec juste l'expérience, le moment de connexion, etc. Et pas... moi aussi, j'ai essayé, alors pas autant de temps, pas autant d'énergie que toi, mais...
Pas de squirt yoga.
J'ai pas eu trop de problèmes pour squirter avec des partenaires qui géraient un peu la stimulation mécanique, etc. Donc je me pensais capable, etc. Alors, j'avais pas capté que c'était juste mécanique et que donc ils avaient compris le mouvement, mais finalement c'était tout, quoi. Et du coup, j'ai eu très envie de le faire moi pour après pouvoir le faire devant un ou une partenaire.
Ouais.
Je me suis dit, putain, ça, vraiment, la personne va crever sur place si j'y arrive.
Mais moi, c'était ça, de ouf. Du côté performatif, j'étais là, mais attends, je rajoute une corde à mon arc, incroyable.
Ouais, moi, je me suis dit, là, ça y est, parce que, évidemment, j'ai vu quelques pornos où deux, trois secondes plus tard, machin. Et donc, j'ai essayé, ça m'a... Tu me dis, quoi qu'il en coûte, moi, ça m'a coûté mon coude.
Non, c'est terrible.
Vraiment, parce qu'en fait, si tu veux, c'est ce que... Il manque des centimètres de bras et donc du coup c'est quand
j'ai
même
aussi les bras très courts, je pense que c'était pour ça que c'était si complexe.
Mais la vraie question T-rex, c'est quoi. Est-ce qu'on peut se faire squirter soi-même ou il nous manque 10 centimètres de
alors,
bras.
Alors non, il y a des personnes qui arrivent très bien, en fait ça dépend le type de squirt, il y a des personnes
je crois que t'allais dire ça dépend le type de bras.
Non, bah après c'est un peu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme quand on fait le grand écart. Il y a des personnes qui vont y arriver assez vite, il y en a qui n'arriveront jamais. Enfin voilà, et sur le papier, tout le monde peut faire le grand écart. Et ben là, c'est pareil. Et peut-être qu'on va jamais trouver la... Et pourtant, le faire sur quelqu'un d'autre, pour moi, c'est plus simple. Mais sur moi-même, le bras n'est pas assez... En fait, je réfléchis trop. Et le lâcher-prise, c'est pas compatible avec une espèce de recette de cuisine, quoi. Donc au final, ça m'a fait effectivement, j'ai eu des petites tensions au tendon, quoi.
C'est terrible.
Et in fine, pour avoir 3 gouttes, enfin vraiment un truc vraiment, enfin voilà, je n'allais impressionner personne
avec ça.
Voilà, donc et j'ai vraiment mais laissé tomber le truc, mais aujourd'hui j'en ai plus rien à faire. Mais c'est vrai que c'était une période de ma vie où j'avais ce truc de performance et voilà, il faut que je sois une reine du cul. J'avais vraiment ça et ça faisait partie de il faut que j'impressionne une partenaire avec cet effet comme ça. Voilà.
Ouais, parce que je me demandais comment t'en étais venue à te passionner pour le sujet. Est-ce que tu t'es passionnée sur le sujet pour des raisons un peu personnelles parce que ça te faisait fantasmer et donc c'est des. Ta quête avant tout, ou tu t'es vraiment passionnée pour le sujet pour des raisons professionnelles, juste parce que t'avais
envie. En fait, moi j'ai découvert ça de façon fortuite, enfin voilà, un pénis courbé par. un peu chanceux qui passe par là et hop, on ruine les draps et voilà. Et
donc, ta première fois, toi, c'était par hasard. Avec
ouais,
un partenaire.
Par hasard. En fait, j'avais un partenaire qui avait un pénis vraiment particulièrement courbé et du coup idéal pour la zone G finalement, gros avantage. Et donc bah en fait voilà, ceci, enfin comme c'est mécanique, ça stimulait le bon endroit, etc. Et donc du coup, je me suis retrouvée les draps trempés, etc. On était vraiment sur
une
petite piscine quoi. Et du coup, bah c'est ouais. Parce que déjà, forcément, le réflexe, je pense, de toute personne qui a son premier squirt, c'est de toucher le liquide et sentir. est-ce que c'est de la pisse ou pas? Parce qu'en plus, c'était pas forcément un partenaire que je connaissais depuis hyper longtemps, pas forcément très à l'aise. Lui, évidemment, avait gagné au loto, donc du coup, trop content.
Lui, il était trop content, ouais, c'était quoi sa réaction ouais.
Mais c'était intentionnel, genre, il savait.
Pas du tout.
Ah,
bon. Parce qu'après, attends. On parlera des ouais. Serial squirters plus tard.
Oui,
dans cet
exactement. Mais non, là, c'était vraiment. Je pense que ça a forcément dû lui arriver de temps en temps, vu la forme de son pénis. Enfin, voilà. Mais du coup, il était très content de ça. Et moi, j'étais là, ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est gênant? C'est pas gênant. Enfin, qu'est-ce qu'on se dit, tu vois?
Et c'est en quoi, fait, l'étiquette autour du squirt à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que moi, j'étais pas forcément, entre guillemets, éduquée. Enfin, évidemment, alors j'avais déjà commencé à faire de l'éducation à la sexualité pour mes patients en pédopsie, mais évidemment, quand on fait de l'éducation sexuelle en pédopsie, il y a aussi la clinique du patient, etc. On rentre pas dans des pratiques type squirting, enfin, c'est vraiment pas le sujet, quoi. Donc, vraiment, je découvrais, je me suis dit, ok, c'est ça, femme fontaine, visiblement, etc. Donc, ça m'a pas. Et puis après, c'est devenu un truc assez cool. Courant dans ma sexualité, mais qui me passionnait pas plus que ça, voire qui pouvait m'emmerder quand j'ai juste envie de dormir et pas de laver les draps ou changer les draps, etc. Sauf que quand j'ai créé WeQ, évidemment, on tâtonne, etc., sur les thématiques qu'on va aborder. Et on fait souvent des FAQ où on demande qu'est-ce que vous voulez que j'aborde, etc., etc. Et je trouvais vraiment qu'il y avait, passer les problématiques sexo, parce que ce qui intéresse le plus les gens, c'est les dysfonctions, parce qu'ils sont en souffrance. Mais passer ça, la pratique vraiment qui m'était le plus demandée, clairement, c'était le squirt. Et moi qui le vivais depuis un certain temps, je me disais pourquoi, mais quelle idée, mais vraiment je sentais qu'il y a certaines personnes avec qui c'était un échec dans leur vie. Il y a un truc, je me suis dit ok, ça prend,
c'est la quête d'une vie, quoi.
Ouais, c'est, enfin, en tout cas d'une vie sexuelle, parce que si d'une vie c'est un peu triste. mais du bisexuel, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de comprendre, j'ai absolument envie de comprendre ce qui se passe, ce phénomène sur lequel je me suis jamais penchée. Et est-ce qu'il existe des études sur le sujet? Est-ce que, enfin, je sais rien, moi, est-ce que, voilà, je peux comprendre ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui fait que on produit un liquide comme ça, visiblement, alors, en fait, quand tu squirtes très souvent, tu sais que c'est un peu du pipi quand même, mais t'es pas, enfin, tu te dis bon, peut-être que je sais pas, il y a des choses qui se mélangent, etc. Bon, mais il y avait aussi cette fameuse question. Et puis je voyais partout écrit, c'est pas de l'urine, vous inquiétez pas, c'est inodore, c'est
squirt
incolore.
Squirt is not pee, c'est ça.
Voilà, squirt is not pee. Et je me disais, bah, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai quand même des témoignages, j'en ai beaucoup de gens qui me disent, bah moi, je comprends pas parce que ça sent le pipi, quoi. Et je me suis dit, c'est forcément qu'il faut que j'explore le truc. Et j'ai commencé à faire des recherches, à faire des boîtes à questions, etc., etc. Et en fait, une de mes abonnées était urologue.
Ah,
trop bien.
Parfait.
Et donc, elle commence à venir dans mes DM et tout. Et on a passé, je crois, mais vraiment un après-midi entier à décortiquer le sujet, à ce qu'elle m'explique un petit peu les étapes de l'urine, etc., etc., pour que je comprenne enfin ce qui se passait. Et donc, du coup, entre-temps, j'ai découvert aussi qu'il y avait... donc, ça, c'était son avis à elle. Après, ça l'engage qu'elle, etc. Mais bon, elle avait l'air fiable, quoi. Et j'ai trouvé une étude qui venait absolument confirmer toutes mes hypothèses, etc. Alors, il faut savoir que c'est quand même terrible parce que cette étude... Bon, déjà, c'est des médecins français qui l'ont réalisé. Et ça, c'est une petite fierté quand même que parfois les Français fassent des choses sympas. du coup, il a été fait que sur 7 femmes. Donc, c'est quand même pas un échantillon...
super représentatif, voilà, des gens féminines, enfin.
Mais c'est déjà ça. Mm-hmm. En tout cas, ça a été fait avec sérieux. Et les docteurs, donc Salama et Desvo, en ont fait quand même un bouquin. Donc, du coup, il est assez intéressant, leur bouquin. Et donc là, voilà, il explique, je sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails, de pourquoi c'est du pipi, etc. Je sais pas trop
si
vous attendez moi, mais...
Si, carrément, moi je suis chaude pour que tu nous dises genre, pourquoi c'est de l'urine, et aussi que tu nous dises pourquoi les 3/4 de la population mondiale est convaincue que c'est pas de l'urine. Enfin,
ouais.
Toi, c'est ça, cette dualité qui m'intéresse.
Je vais vous raconter après juste une anecdote TikTok, parce que j'ai fait une vidéo pour dire que c'était de l'urine, mais que je parlais des personnes à vulve, et donc là, c'était un scandale, et c'était pas de l'urine, et c'était pas possible. Et j'ai fait aussi un TikTok sur le squirting des pénis, où j'expliquais que c'était de l'urine, et là, c'était OK. Là,
ah, mais si, ça peut pas être très avancé comme
et
ça.
Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, OK, d'accord. Enfin, c'est quand même deux poids, deux mesures, parce qu'il y en a un, on me dit, non, mais c'est pas possible, etc. Et vraiment, les gens sont convaincus, sont prêts à s'énerver, à m'insulter, et de l'autre côté, OK, c'est de la pisse, quoi. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, déjà, ça nous donne quand même un peu d'infos.
Mais
est-ce
qu'il y a pas un truc de un pénis, c'est un pénis, il peut pas y avoir 36 000 choses dedans, alors que le corps de la femme, il est mystérieux,
oui.
On sait pas trop ce qui s'y passe, tu
alors
vois, quelque part.
Enfin, on a vraiment littéralement les mêmes organes génitaux, tu vois, et il y a un truc comme ça qui fait que on a envie que ce soit, que ça reste mystérieux. Il y a des gens qui disent, oui, mais même si tu le sais, pourquoi tu le dis? Bah, pour rassurer les gens. Parce qu'en fait, il faudrait pas le dire, en fait. On me reproche, OK, d'accord, j'ai compris ton explication, donc je vous explique tout de suite, mais en fait, tu t'aurais dû te taire, quoi. Et donc, alors que, bah, en fait, non, moi, mon métier, c'est pas de cacher, justement, en fait, c'est de tranquilliser les gens sur le sujet, et vous en faites ce que vous voulez de cette information, pour faire un déni, la refouler. Mais en tout cas, moi, je vais pas dire à des gens qui me disent, moi, ça sent le pipi, écoute... Tu as vraiment pas de chance, tu es la seule personne au monde. Enfin,
ouais.
Donc voilà, c'est absolument important que je le dise. Donc, je vous explique vite fait, je l'ai fait vraiment façon express, c'est le cas de le dire, vous allez voir. Quand on est excité, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On a une accélération de la fréquence cardiaque. Qui dit accélération de la fréquence cardiaque dit augmentation du volume sanguin. Mm-hmm. Qui dit augmentation du volume sanguin dit que nos reins se disent, OK, ce surplus-là de liquide, de plasma qui est là, il faut que je le filtre pour réguler, en fait, la tension. C'est un peu comme ça. On ne peut pas vraiment avoir d'excès de liquide dans le corps. Voilà. Et donc, les reins, là, se disent, OK, alerte. alerte somme toute raisonnable, pas sur une urgence vitale, mais il faut qu'on traite vite ce surplus de plasma. Et donc là, ils font leur travail de filtration habituel, sauf que comme il y a un petit côté urgence, ça va squeezer une des étapes de l'urine. Donc il y a trois étapes, bon je ne vous la fais pas, c'est trop long, mais en gros l'étape qui incorpore dans l'urine les déchets n'est pas faite, et les déchets azotés, donc qui colorent et qui odorent l'urine. Et donc là en fait ce qui va arriver dans la vessie de façon très rapide, mais je ne sais pas si vous imaginez, c'est exactement le même mécanisme que quand on stresse. Vous stressez, vous avez un rendez-vous, vraiment vous jouez votre vie sur un job, vous avez fait pipi avant de partir, ouais, pour être sûr que c'est machin, et vous êtes en salle d'attente et vous avez envie de faire pipi. Ouais. Et bien c'est la même chose qui se passe dans la vessie, le même mécanisme, etc. Vous avez été stressé, accélération du risque cardiaque, etc. Et là, donc, dans cette vessie, il y a cette urine-là qui, en fait, est inodore et incolore. Donc, on peut dire, là, tu te fous de notre gueule, Edwige, parce qu'en fait, c'est de l'urine, mais quand même, elle est inodore et elle est incolore. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, déjà, qui n'auront pas uriné en amont, tout simplement, parce qu'en fait, elles ne sont pas abonnées des comptes sexo, elles ne sont pas obsédées par le squirting. Enfin, elles ne savent pas qu'il faut, si, en tout cas, c'est leur désir que ça ne sente pas, il faut uriner avant. Donc, ça va se mélanger à l'urine qui est déjà présente. Donc, les deux urines, en fait, il n'y a pas de poche, il n'y a pas une poche squirt, une poche pipi, c'est-à-dire que voilà, tout est mélangé, tout sort par l'urètre, donc ouais, forcément, il y aura une partie qui va sortir, qui sera de l'urine pure, classique, qui sent et qui machin. Et encore mieux, je ne sais pas si c'est mieux, mais si, pour les personnes qui aiment l'uro, mais pour le coup, il y a certaines personnes, on en parlera, mais qui maîtrisent vraiment la mécanique, la technique dite mécanique, et qui vont faire, par exemple, que la personne, au réveil, on se touche, on se machin, ça va très vite, on est très excité, et notre partenaire fait cette technique mécanique, et là, ça peut être vraiment, sur quelqu'un qui maîtrise le geste, ça peut être moins d'une minute, ça peut être quelques secondes, la vessie se vide. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la technique mécanique chatouille l'urètre et dit à la vessie, vide-toi, quoi. Enfin, pour vous faire vraiment très court. Et bien là, la vessie, avec l'urine de toute la nuit, va tout sortir. Et il n'y aura pas forcément eu trop le temps de fabriquer de l'urine primitive, celle qui sent pas et qui est pas machin. Et donc, ça peut être... En fait, personne ne peut prédire à l'avance ce qui va sortir, puisqu'il faudrait presque une échographie de la vessie de chaque personne avant. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment malhonnête de dire aux gens c'est inodore, c'est incolore. Parce qu'en fait, ça, parfois ça le sera si la personne a pris ses précautions, et puis dans plein de cas ça ne le sera pas, et il faut se détendre sur le sujet, enfin, le sexe ça sent pas le jasmin, la fleur d'oranger, enfin, et donc oui, parfois il y a des fluides, enfin, je pense que les gens l'ont remarqué bien avant de squirter, et c'est pas tout lisse, etc. et voilà, on peut s'en remettre vraiment, quoi. Et c'est marrant parce que ça gêne beaucoup les gens, ce côté pipi. Mais par contre, pour faire une sodomie, il y a du monde. Ouais. par contre, là, on sait que c'est du caca, il n'y a pas du tout. Ouais.
C'est étonnant d'ailleurs. C'est dit, analyse notre pouls. Oui, oui, c'est ça.
Et une deuxième poche, en fait.
Une deuxième poche, tu vois, et c'est des paillettes. Enfin, et donc, non, voilà, c'est vrai que c'est vraiment très hypocrite, parce que là, d'un côté, ça dérange que ça soit du pipi, mais de l'autre, là, par contre, allez, c'est pas grave, t'inquiète. Donc,
voilà. Mais c'est hyper intéressant, cette phobie des pratiques uro, tu vois, genre de se dire. Ouais. Alors que j'ai l'impression, il y a tellement. L'intention, en fait, c'est tellement important dans les fantasmes, dans les kinks, dans les pratiques. Enfin, c'est pas parce que tu prends une bifle que c'est du BDSM, tu vois, donc c'est pareil. Ouais. Enfin, le squirt, c'est pas parce que tu squirtes qu'il y a un rapport du coup d'uro, enfin de pratique uro qui peut potentiellement être de la dégradation dans certains cas.
L'intention n'est pas là, c'est à dire qu'en fait ça dépend de l'intention. Si ton intention en faisant squirter quelqu'un c'est de se dépêcher de le faire le matin au réveil pour que ça sente très fort le pipi, exactement, et que tu sois peut-être humilié, etc., j'en sais rien, mais enfin, oui, ok, là c'est une pratique, exactement, uro, mais s'il n'y a aucune intention, aucune excitation par le fait que ça soit de l'urine, et ben en fait c'est pas de l'uro, c'est, exactement, tout. Enfin, mais c'est vrai que les gens disent oui, ben en gros voilà, c'est des golden shower. Et ben déjà non, ça peut être des transparent shower. Calme-toi. Et en fait c'est l'intention. Voilà, ton intention, c'est pas que ça sente le pipi, c'est pas de rechercher ce côté humiliation, etc., de se faire pisser dessus. C'est une action engendre un effet, cet effet, c'est le squirt, et puis ça fait partie du cul, quoi.
Ouais.
Et à propos d'intention, tu m'avais déjà parlé par le passé des céréales squirters. Ouais. Enfin, t'avais appelé ça comme ça, je sais pas.
Ouais, mais parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Alors,
Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est?
Bah, en fait, je pense que comme... alors ça, c'est vraiment un truc... c'est la théorie d'Edwige. Hein.
c'est la théorie du complot, pas.
Voilà, j'ai pas... En tout cas, voilà, y a pas d'études sur le sujet. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir... j'ai 5 ans de célibat où j'ai un petit peu expérimenté le champ des possibles. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et en général, j'ai quand même... On n'était pas là pour enfiler des perles. Hein. On s'était un peu dit pourquoi on était là. Et donc, voilà, c'était des rencontres très très cul, quoi. Et plusieurs fois, j'ai rencontré des partenaires qui, sans même me prévenir, dans les premières minutes du tripotage, etc., allaient directement me mettre des doigts dans la cocotte et activer mécanique.
Consentement, les gars, le
consentement. Ouais, mais vraiment, sans que du coup j'ai pu imaginer, parce qu'en fait on peut mettre des doigts dans la chatte sans que ça soit bien évidemment pour obtenir un squirt, mais là on savait que l'intention, on reconnaît le geste au bout d'un moment, hein.
Et je sais pas qui t'a affaire, mon coco.
Bon, et du coup, au final, comme en fait, on peut pas maîtriser ça, c'est-à-dire que ça sort, on appuie comme on appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume, et ben là, c'est pareil. Et du coup, c'est le début, on se connaît à peine, alors parfois on se connaît depuis un certain temps, mais j'ai rien demandé, moi. Pour le coup, en plus, il n'y a pas de précaution de prise, forcément, parce qu'on est sur le canapé, etc. Je me retrouve avec mon canapé qui a de la pisse, enfin, tu vois, parce que qu'elle soit inodore, incolore ou je sais pas quoi, bah, ça reste de la pisse, enfin, en tout cas, on ne peut pas juste la laisser sécher, quoi. et du coup, il y a une espèce de truc où on voyait quand même, enfin, moi, j'ai remarqué plusieurs fois la jouissance de cette performance réussie, ce truc du roi, de la reine du cul, qu'on pouvait dire... Oh. Regarde ce que je sais faire, tu vois, et voilà.
Bah, regarde ce que je te fais, sans en avoir en plus, sans avoir ton accord, quoi.
Ouais, sans avoir mon accord. Et moi, disons que j'étais un public averti, donc ça allait, ça m'a pas choqué, etc. Sauf que, en fait, sur le principe, je trouve ça moche. En fait, il suffisait de me dire, je sais pas. Même en plus, ça aurait pu être hyper excitant.
Ouais, ça aurait pu être excitant. Je sais faire ça. Est-ce que tu veux que j'essaye,
voilà. Et je pense que j'aurais pas dit non. Plus. Donc, mais le fait de là d'être prise au dépourvu, d'être trempée, d'avoir machin, et j'imagine qu'évidemment c'est des choses qu'ils pratiquent régulièrement pour se redorer l'ego, pour se sentir, j'en sais rien moi. C'est toujours des mecs en plus qui faisaient ce type de je sais pas, de performance là, non consentie, quoi.
Okay, t'as jamais eu ça avec des partenaires
non, parce que il y a pas ce truc, enfin je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était la démonstration de ma virilité, regarde ce que je sais faire, je maîtrise ça à la perfection, etc. Oui, enfin moi je sais faire de la poterie, donc ça va. Non mais chacun
c'est plus dur que d'appuyer sur un bouton, ok.
et je sais pas, il y a un truc que je trouve très dérangeant dans ça, et en fait je trouve que quand on maîtrise le geste ou qu'on a ce fameux pénis un peu courbé, machin, ou qu'on a peut-être juste un jouet, mais on sait qu'il peut produire très bien cet effet, bah, c'est nécessaire de demander à sa partenaire si c'est OK. Parce que ça peut être effrayant, en fait, pour certaines personnes, et au même titre qu'on demande le consentement pour mettre un doigt dans les fesses, et bah là, c'est pareil. Je trouve que, voilà. Et donc, ouais, j'ai remarqué qu'il y avait des espèces de serial squirters comme ça, qui avaient très envie de
J'aime bien ton analogie avec le doigt dans les fesses, parce que je me demande si on faisait pareil, genre, sans le dire... Si tu deviens une pro du massage prostatique et que là, du coup, sans demander consentement,
c'est terrible, parce que tout à l'heure, la sodomie, on disait, la sodomie, c'est pas un problème, évidemment. La sodomie des hommes, 6 sur des femmes, 6 ou pas d'ailleurs, et là, c'est OK, là, c'est pas un problème. Par contre, si on leur fout un dans le cul, là, c'est dégueulasse. Ouais. Là, le caca devient dégueulasse. Donc, non, mais c'est incroyable, quoi, comme tout, comme ça. Tout change d'un coup, et pour n'importe quelle pratique, on demande, évidemment, ça peut arriver de façon fortuite. Enfin, on peut pas, chez certaines, des fois ça arrive et on n'avait pas prévu que ça arrive, et ça, c'est bien sûr, c'est OK, c'est les aléas du cul. Et puis d'ailleurs, peut-être les gens sont très contents, mais allez pas, et puis ne serait-ce que pour le canapé, le futon, quoi, merde, enfin, un peu de respect pour
le futon.
Voilà, exactement.
Mais tu sais que peut-être que tes serial squirters, là, ils avaient suivi les formations en ligne, parce que moi, j'ai un peu googlisé, j'ai trouvé des tonnes de formations en ligne payantes pour les hommes, vraiment faites par des hommes, pour des hommes. Je vous ai sélectionné des extraits, mais c'est tellement drôle.
Allez.
Donc, y a un des sites qui a une promesse vraiment forte. Vous n'aurez plus besoin d'analyser les signes hyper subtils ou non de l'orgasme féminin.
Oh mon dieu.
Avec le squirt, attention, tout est clair. Le squirting et l'orgasme qui l'accompagne, donc ça, je suis sûre que t'auras des choses à dire sur le sujet, ne peuvent pas se simuler.
Parce que la femme menteuse, la femme qui dissimule le plaisir.
Il y a une petite blague.
Ah,
c'est clair comme de l'eau de roche, c'est le cas de le dire. Donc... Et donc vraiment, il y a des formations comme ça, donc c'était des vidéos, des vidéos payantes, et donc avec des mouvements à apprendre, donc je pense que c'est carrément le type de mouvement mécanique dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, très clairement, ils te disaient que ça te permettait de sauver ton couple.
Ah bah
c'était,
oui,
c'était même pas fait trop pour les mecs célibataires, il était marqué que c'était une façon de sauver son couple.
N'allez pas chez le thérapeute.
Ouais,
en ligne. Mais parce que sauver ton couple, pourquoi sauver ton couple du manque de communication? Parce que là au moins t'es sûr que ta nana ne simule pas. Parce que si elle squirt, c'est qu'elle a joui. Donc là t'es sûr. Donc du coup, moi mon conseil, c'est que si vous voulez pas mettre votre couple en péril, go vous financer cette formation avec votre crédit CPF. C'est vraiment
succès assuré. Ouais, alors déjà c'est pas du tout c'est pas corrélé à l'orgasme. Alors ça peut l'être, c'est-à-dire que vraiment en plus comme c'est c'est surcoté, enfin bref, on en fait toute une histoire de cette affaire-là. Forcément, ça peut pas être juste un jet d'urine. Si c'est ça, pourquoi alors on s'est enfermé 3 mois dans un truc et donc du coup il y a ce truc où forcément c'est jouissif as fuck, que ça va être forcément incroyable, etc. Or quand c'est la technique mécanique, c'est-à-dire que quand avec des doigts on va aller chercher la stimulation de l'urètre pour dire à la vessie de se vider, enfin en gros c'est un peu désolé parce que ça veut vraiment du coup c'est un peu triste ta perte. voilà.
Ça bien sûr, je
l'ai dit comme ça, putain, j'ai perdu des heures de ma vie quand même.
Du coup, en fait, c'est pas du tout corrélé à un orgasme, puisque même s'il y a stimulation de la zone G et que ça peut être agréable, ça peut survenir bien avant. D'ailleurs, on peut obtenir un score bien plus facilement qu'un orgasme. Donc, ça peut arriver sans du tout qu'il y ait d'orgasme. En revanche, il y a des personnes, pour le coup, c'est là qu'intervient vraiment le lâcher prise, etc., qui, lors d'orgasmes très intenses, alors la plupart du temps, soyez pas déçus, mais avec une stimulation d'un teuil, notamment une stimulation clitoridienne type womanizer un petit peu forte. Ah, j'ai peut-être pas le droit de dire des marques, aspirateur clito. et du coup, vont en fait avoir un orgasme assez puissant, assez intense, une sensation de lâcher prise, ou même parfois savoir que c'est le moment de lâcher un peu, donc avoir un peu plus de volonté qui est l'arrivée de ce squat, parce qu'elle raconte qu'elles peuvent pousser un peu, quoi. Et là, hop, c'est parti, et là, c'est un squat corrélé à l'orgasme, et souvent d'ailleurs c'est ce qui est en jet, parce qu'il y a là du coup, comme il y a aussi l'intention un petit peu,
le porno n'était pas à 100%, il y avait un peu de vrai quand même.
Il y a la possibilité bien sûr d'avoir ce squirt là qui est du coup, comme il y a un peu cette volonté de relâcher, parce que ça soulage en même temps de l'orgasme, il y a quelque chose de très plaisant en fait quand on vide sa vessie, quand on a très envie de faire pipi, enfin ça fait du bien, on est d'accord quoi. Et bah là du coup on relâche, donc du coup le jet est plus les sphincters en fait sont plus stimulés et donc le jet est plus impressionnant. Or la technique mécanique en général, ça fait plutôt une petite cascade.
Voilà
ça plus coule en petite cascade quoi. Mais évidemment on n'entend parler que du jet, nous, forcément, que du jet et de l'orgasme, alors qu'en fait c'est très rare, et c'est là qu'on dit souvent il faut lâcher prise pour squirter, etc. Avec la façon mécanique, on n'y est pour rien, on voudrait pas que ça arrive, on serait focus, on dit non je veux pas que ça arrive, que ça arriverait quand même, enfin bon, sauf si on contacte vraiment très fort le périnée. Alors que là, pour le coup, ça, c'est le truc un peu chouette. Moi, j'ai pas du tout jamais eu accès à ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était que de façon mécanique, etc. De toute façon, je peux en
Donc, ça veut dire qu'il y a deux types de squirt.
Oui. Il y a, en fait, celui qui est, on l'appelle autonome, qui est vraiment, qui arrive comme ça, sans stimulation.
Celui qui jaillit, qui est un peu spectaculaire.
Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment des personnes qui ont cette capacité, faut quand même bien connaître son corps, mais en tout cas, d'avoir des orgasmes très intenses et, voilà, et d'accepter aussi de lâcher un petit peu ce qu'il y a dans la vessie, voilà. Et donc ça, c'est le truc un peu impressionnant. Et puis mécanique, bah, en fait, c'est très simple. Hein. C'est juste on vidange, quoi. Voilà, c'est un peu tout. Et là, c'est jamais, quasiment jamais, parfois simulé, corrélé à un orgasme. Et donc, c'est la majeure partie des gens qui squirtent le font comme ça. Donc
ça veut dire qu'on a, comment dire, on est toutes en capacité de squirter de façon mécanique, mais peut-être pas toutes de façon autonome.
Je pense que très peu de façon autonome. Enfin, en tout cas, quand je fais des stats, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais quand je fais des petits quiz, etc., des petits sondages, c'est quand même majoritairement des personnes qui le font de façon mécanique. Donc, a priori, il n'y a pas, à moins d'une anomalie anatomique, etc., oui, tout le monde peut. Mais par contre, de façon autonome, bah là, c'est un peu, c'est un peu comme avoir des orgasmes puissants, pas avoir des orgasmes puissants. Bah, je pense qu'après ça peut peut-être on peut le travailler, mais en fait comme il n'y a pas de recette, à la différence de la technique mécanique, surprise quoi, on verra si ça arrive, etc. Mais là pour le coup c'est en lien avec le lâcher prise, donc ce serait incompatible avec le fait de mettre une recette en place, de se paragiter avec des choses à faire quoi. Donc je trouve ça beaucoup plus beau. C'est-à-dire que voilà, on peut être surprise, mais on peut pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pour lesquelles on peut faire des tutos, expliquer des choses, etc., etc. Mais ça, pour le coup, là, on peut pas. Donc voilà, wait and see.
Et pourquoi, selon toi, on a tellement associé le squirt avec, tu sais, le côté un peu badass, un peu libération féminine? Pourquoi on a associé ces deux notions?
Uniquement à cause de ce qu'on disait déjà, c'est-à-dire de la place que ça peut prendre dans les films mainstream, où du coup c'est l'espèce de combo où je fais des gorges profondes, je crie beaucoup, et je suis capable de faire, comme je dis souvent, le cirque pinder du cul là, des trucs, des positions hors normes, et aussi je sais squirter, donc tac, j'ai coché, je suis une bonne petite amante.
Ouais, mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc un peu, est-ce qu'il n'était pas censé avoir une notion un peu féministe derrière le squirt, tu vois, j'éjacule comme les hommes éjaculent, je monte ma puissance aussi, tu
alors
vois.
En fait c'est déjà squirt et éjaculation, c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment le résultat donc de l'orgasme, et donc c'est cet éjaculat qui a d'ailleurs des protéines de prostate dedans, chez nous aussi, hein. Et l'autre côté, le squirt, c'est vraiment cette émission en quantité conséquente d'urine au moment de l'excitation sexuelle, voilà, volontaire ou involontaire, corrélé à l'orgasme ou non corrélé à l'orgasme.
Mais ce que tu disais, Sarah, avec aussi l'idée, enfin j'essaie de réfléchir à pourquoi je me suis enfermée des heures et des heures, tu vois, et je pense qu'il y a quand même ce côté de découvrir ce que ton corps peut faire, de prendre un peu le contrôle sur ton corps, parce que moi j'avais un peu
côté pouvoir,
c'est ça, j'avais envie d'avoir de voir un peu les limites du coup de mon corps, ma biologie, de mon anatomie. J'avais aussi envie de prendre contrôle sur cette pratique parce que du coup j'avais entendu quand même parler de ces serial squirters et je m'étais dit attends, tu sais quoi, je vais voir comment ça fait, quelles sont les sensations, comme ça je peux aussi repérer ce genre de pratique, je serais pas surprise, etc. Et puis moi il y a aussi le côté, bon c'est plutôt mes kinks aussi qui sont que j'aime beaucoup les fluides, j'aime beaucoup la salive, j'aime beaucoup la transpiration, j'aime bien ce côté vraiment genre où ton corps produit quelque chose qui est vraiment lié à la sensation, au plaisir. Donc forcément moi je trouvais l'idée d'une émission frontale, j'étais voilà, canon quoi. Donc je pense que, enfin je suis d'accord avec toi qu'il y a vraiment j'ai forcément formaté par le porno, par cette idée de se conformer à la meuf super baiseuse, on en parle encore, le mythe de la super baiseuse. mais voilà, je pense aussi qu'il y a ce côté de prendre le contrôle sur les manifestations corporelles,
découvrir
quoi.
Mais maîtriser aussi ce qui peut advenir de nos corps dont on n'a pas forcément toujours l'entière liberté.
Exactement, et puis c'est quand même une sensation que j'ai trouvée assez particulière, que j'ai pas retrouvée dans beaucoup d'autres pratiques, hein, quand même, de cette espèce de relâchement qui est très très spécial. Effectivement pas lié à l'orgasme dans mon cas non plus, mais il y a quand même un truc, tu te dis voilà, ok, c'est un truc que j'avais pas senti avant, c'est quand même un petit, voilà, si tu rajoutes ça aussi,
toi t'as quand même un bon souvenir, enfin t'as déjà eu un bon souvenir ou une bonne expérience de squirt ou t'irais pas jusqu'à
j'étais quand même plutôt fière, je me suis dit, en même temps c'était quand même le
tu l'as mis dans le groupe WhatsApp de copines.
Est-ce que tu t'es tatoué la date?
Oh là là, franchement bonne idée. Non mais j'avoue j'ai fait une petite annonce collective à toutes mes copines, hein. J'étais quand même là, il s'est passé un truc, mais ouais je pense que c'est plutôt une bonne expérience. Après je l'ai que vécu en solo, parce que aussi je pratique pas non plus énormément la pénétration avec des partenaires, donc c'était vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi dans mon espace, et j'ai pour le moment eu aucune envie de partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc
voilà. C'est pour le coup de faire les choses pour nous, c'est aussi dans la liberté, c'est quand même quelque chose, tu vois, donc du coup ouais, ça je peux complètement comprendre. Mais c'est vrai que oui, en fait on a envie aussi de connaître nos corps, comment ils fonctionnent. Ok, les études s'y penchent pas, mais bah nous on va s'y pencher, et d'avoir entre notre corps et nous des choses un petit peu chouettes à se raconter à nous-mêmes. Et ça pour le coup oui, ça fait partie de la liberté, ça fait partie de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que oui, de toute façon il faut toujours avoir en tête qu'il y a aussi des dictates qui sont pas loin, des machins, et savoir ce qu'on fait de ça. Après, on peut complètement être consciente de ça et avoir envie de le faire quand même. Hein. C'est pas un problème.
Et du coup, si j'ai envie de le faire quand même, si j'ai envie d'apprendre à squirter demain, est-ce que tu as des tips concrets?
Alors, en solo, je trouve ça hyper compliqué.
Ok.
Lisa a pu me dire.
Lisa, pas à Malence, hein.
Pose un congé sabbatique.
tu vois. Sarah, quitte Fantasy. Bye bye.
En tout cas.
C'est la seule bonne raison, je pense, que les gens sont là. Pas de soucis.
Moi, je pense que nos boss, ils disent oui direct. Alors,
si tu fais un, tu tiens un carnet de liaison, tu vois, tu nous racontes un petit peu
du contenu après, t'inquiète.
Voilà, tu vois, s'il y a un truc, non, avec un jouet, même un jouet courbé, c'est plus simple en tout cas qu'avec nos doigts si on veut le faire en solo, ne serait-ce que juste pour la taille du bras.
Ok, etc. Donc on investit potentiellement dans un jouet courbé.
Un jouet courbé, il y a des jouets qui sont très très anatomiques, hein, très bien pensés, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple. Sinon, bah, quelques séances de kiné, puis ça revient. Mais mais surtout. En fait, il faut comprendre que la technique dite mécanique, c'est vraiment, en fait, on va venir chatouiller, donc c'est la zone G. Donc la zone G, c'est le carrefour entre donc les piliers, les bulbes du clitoris, là, qui vient à cheval. En fait, notre clitoris est complètement à cheval sur l'urètre et le vagin. Et donc, du coup, par l'intérieur du vagin, on va aller stimuler donc cette zone de carrefour du clito, de l'urètre et des glandes de Skene, les fameuses qui font du bien quand on les chatouille, et en fait on va venir donc déjà un petit peu exciter la zone, parce qu'il faut que ça soit quand même un peu érogène, et puis surtout faut être sûr qu'on est au bon endroit, donc c'est censé faire un peu de bien. Et en fait faut vraiment imaginer qu'on va aller chercher, en fait vraiment tirer sur l'urètre et dire à la vessie coucou, ce serait vraiment bien sympa si tu pouvais te bider, quoi. Et donc au final,
je sais que c'est le même dirty talk que tu fais en même temps. Tu verras la vessie coucou.
C'est presque du mignon talk là pour le coup, tu vois, c'est une petite négo, quoi. Mais surtout, enfin déjà essayer plutôt de se focus, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que c'est une zone qui fait du bien, en fait. Il y a qu'un cinquième du vagin qui est érogène, donc profitons de cet endroit qui est un peu sympa, quoi. Donc voilà, prenez du plaisir, etc. Laissez le temps, ça peut demander de l'huile de coude, hein, je connais, mais ça peut vraiment prendre du temps. Donc soyez patient, soyez patiente, enfin vraiment profitez du moment. Mais il faut savoir que oui, le temps de prendre le coup de main, parce que c'est quand même un coup de main de bien comprendre comment ça fonctionne, ça peut être long. Et comme qu'on apprend à faire le grand écart, j'aime bien ce truc là parce que oui, ça peut prendre plusieurs mois, et il faut entraîner la souplesse, etc., etc. Mais donc voilà, donc en fait c'est vraiment juste aller faire cette petite technique qu'on appelle du viens par là, là,
ouais.
Hein, et viens par là le pipi. Oh, désolée parce que plus personne ne voulait en squirter. Ouais. Mais voilà, donc il y a vraiment prendre son temps, idéalement en solo, avoir un jouet courbé du lube, bien évidemment, par pitié, et puis wait and see, puis c'est vraiment, surtout, vous ratez pas grand-chose. Donc, non, mais c'est vrai.
Ouais,
non,
c'est clair, hein, franchement.
C'est-à-dire que oui, oui, ça peut être une case à cocher, mais finalement, comme on nous demande quand même de cocher beaucoup de cases...
Exactement, ne vous enfermez pas chez vous.
Ne vous enfermez pas comme ça.
Ne faites pas comme moi. Voilà.
Et vu le nombre de questions qu'on, nous, on a eu à te poser sur le squirt, tu t'imagines bien que la communauté a aussi plein de questions, plein de témoignages. Donc je te propose qu'on écoute quelques témoignages slash questions sur le squirt.
Hello, donc moi c'est Julie, j'ai 35 ans, je suis en couple du coup depuis très longtemps, c'est mon premier amour, donc depuis mes 15-16 ans, et mon mec ça ne l'a jamais dégoûté. Il a toujours même trouvé ça plutôt excitant. Et il y a eu plein de moments où, dans notre histoire, où je m'interdisais, où je m'empêchais, je me bloquais en me disant c'est dégueu, ou il va y en avoir partout, ça va être une galère, etc. Et où en fait je me frustrais soit parce que je trouvais ça pas pratique, comme si c'était vraiment un problème, alors qu'en fait en vrai on s'en fout, et même lui s'en fout totalement d'ailleurs. Ou alors je trouvais ça dégueu et je me disais c'est pas normal, etc. Alors petit comble, c'est qu'en plus je suis psy, donc je connais bien tous ces trucs là et ça m'empêche pas de le penser pour moi-même, donc je travaille dessus, mais c'est pas facile.
Oui, bah les cordonniers, tout ça.
C'est les plus chers.
Je connais, hein, voilà. Non, non, mais c'est normal. Et puis, il faut vraiment qu'on... Enfin, moi, la première, hein, on sait pas appliquer les conseils qu'on donne aux autres. Enfin, c'est la base, presque, j'ai envie de vous dire. Du coup, c'est un vécu qui est très commun, en fait, aux personnes qui squirtent de façon répétée. Certaines personnes le disent, c'est à chaque rapport. Mmh. Et ça peut être vécu comme une contrainte, ce que je peux comprendre. On aurait envie, parfois, nous aussi, de dormir juste après. Bon, on fait pipi, hein. Voilà. Si, pour le coup, là, c'est déjà fait.
Ouais.
C'est dit. On a gagné du temps. Mais oui, ça peut être vécu comme quelque chose de relou, forcément. Mais en même temps, je pense que quand c'est le cas quotidiennement, ça se saurait si les gens baisaient tous les jours. Mais en tout cas, régulièrement, voilà, il faut l'accepter parce que de toute façon, on ne va rien pouvoir y changer. Que sinon, on se parasite complètement le moment de cul qui est quand même censé être un vrai moment de lâcher prise, de connexion, etc. où on n'est pas encore sur une charge mentale, etc. Donc je pense que voilà, c'est le travail d'acceptation qui n'est pas encore fini, mais en plus là il y a le luxe entre guillemets d'avoir le même partenaire, donc il est au courant, il s'en fout, donc on peut voilà, après peut-être justement avoir ce truc qui est une contrainte, mais qu'on peut, en fait, dans l'imaginaire collectif, le cul c'est hyper fluide, il y a pas de pause, il y a pas de voilà, ça s'enchaîne, et il y a même des personnes qui, donc c'est cette fameuse excuse pour pas mettre de capote, hein, c'est que ça va casser l'ambiance, etc. Et pareil, il y a ce recours au lubrifiant qui est parfois, oui, mais si je dis que j'ai besoin de lubrifiant, etc., je vais casser le truc, alors que vraiment, si tu casses le truc, c'est que vous aviez pas envie de ken, hein, ouais. Parce que franchement, c'est pas ça qui va vous arrêter. Donc, et au final, bah, ça peut être aussi dans le package du lube, etc. Cette petite serviette qui est toujours à portée de main, qu'on se met sous les fesses, on la prend, on la balance au bout du lit, on dort. Enfin voilà, mais ce serait dommage puisque visiblement elle peut pas faire sans de s'empêcher de prendre du plaisir à cause de cette petite action mécanique finalement qui fait partie du lot, quoi. Donc ouais, je comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui c'est relou, j'aimerais arrêter. Ça n'est pas possible. Alors, c'est possible au prix de ton plaisir. C'est-à-dire que tu vas contracter ton périnée pour... Parce que le périnée, il aide à refermer les muscles du vagin, de l'anus, mais aussi de l'urètre. Et donc, du coup, oui, tu vas t'empêcher d'avoir du plaisir. Tu vas... Bon, c'est cher payé.
Ouais.
Voilà.
Donc... OK, on va passer au témoignage suivant.
Allez.
Alors, bonjour, moi, je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans et je suis en première année d'études de médecine. Et donc, en fait, j'utilisais ma brosse à dents électrique en tant que vibro par stimulation externe. Et j'ai expérimenté ça, le squirt, donc vraiment de façon totalement hasardeuse. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a fait assez flipper, je dois avouer. Parce que bah, je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, je me suis posé plein de questions, etc. Je me suis un peu documentée, je me suis rendu compte que c'était pas si grave. Enfin, je pensais que c'était grave au début, mais c'était pas si grave, que c'était pas de l'urine, parce qu'au début, je pensais que c'était de l'urine, mais pas du tout. Et donc, ça m'a rassurée. Je me suis juste mise, du coup, bah, je me suis dit, bah, fallait que je pouvais pas me masturber, bah, dans mon lit ou ce genre de choses pour pas salir mes draps. Donc, je le faisais sous la douche. Donc, voilà. Et après, donc, je me suis. Donc, ma sexualité accompagnée qui commence en même temps, et je me rends compte que bah, ça m'arrive pas du tout accompagner mon partenaire. Et je me dis, bah, bizarre un petit peu. Parce que pourtant, je prends du plaisir à deux, mais c'est pas pareil, c'est pas aussi intense aussi que bah, le vibro. Parce que maintenant, j'ai un vibro, et donc je l'expérimente aussi directement avec un vibro. Et c'est pas aussi, la stimulation n'est pas aussi intense avec un partenaire qu'avec un vibro. Donc je mets ça sur ce compte-là. Mais je pense aussi qu'il y a une part de lâcher prise qui est beaucoup plus difficile à accompagner que toute seule. Et donc je pense que c'est ça qui joue. Et aussi, enfin, malgré que mes partenaires m'aient dit que ça les excitait, que c'était pas du tout quelque chose qui les dégoûtait, parce qu'ils savent très bien que c'est pas de l'urine, etc. Enfin, ils connaissent un peu le sujet. Mais pour autant, bah, ça me... J'y arrive pas. Je sais que ça m'arrivait d'avoir la sensation que ça allait m'arriver, mais en fait, c'est tellement peur que, même si je sais que c'est pas de l'urine, je sais pas, la peur de que ce soit de l'urine au final, et bah, ça me bloque en fait, finalement, avec mon partenaire.
Wow, bah après cet épisode, ça va être...
Oh, ce qui est bien, c'est qu'elle est en étude de médecine et que d'ici, dans pas trop longtemps, elle va... Pardon. Là. Dans pas trop longtemps, elle va comprendre. Étudier les reins, l'urologie, etc. etc. Elle pourra un petit peu comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle là, du coup, d'un squirt autonome. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est le classique squirt qui arrive au moment de l'orgasme, lors d'une stimulation ou d'un orgasme très intense. Donc, corrélé à un vibro, la plupart du temps, c'est vrai, ce que c'est en tout cas les témoignages que j'ai, etc. Et je pense qu'elle a tout compris, c'est-à-dire que ça arrive quand elle est seule, parce que justement le squirt autonome nécessite un grand lâcher prise qu'on a forcément quand on est éloigné du regard de l'autre, quand on n'a pas la, enfin voilà, personne n'attend rien de nous, et en plus elle le fait dans la douche, ce qui est assez chouette pour moi, les personnes qui sentent qu'elles ou ils en sont capables, mais ont très très peur, bah, je leur dis, bah, faites-le dans une douche, faites-le dans une baignoire la première fois, comme ça vous êtes tranquille, même avec l'eau qui coule, pardon la planète, mais du coup voilà, ça peut être une idée. Mais effectivement, en fait, c'est très classique que des personnes arrivent à orgasmer seules et n'arrivent pas à le faire à deux de façon générale, ou en tout cas de façon moins intense, parce que il y a un lâcher prise qu'on n'arrive pas forcément à voir, en tout cas dans les débuts d'une relation, et puis parfois jamais, hein, mais voilà, ça dépend de la relation qu'on a aussi. Mais donc, un, est-ce qu'on est quelqu'un qui a besoin de contrôler, est-ce qu'on a peur du jugement de cette arrivée d'urine des eaux à ce moment-là, est-ce qu'il y a une tension, je sais rien moi, dans notre couple, enfin, il y a des choses qui font qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas jamais avoir d'orgasme à deux, avoir beaucoup de plaisir mais pas d'orgasme. Et là, comme elle est capable de squirter de façon autonome et corrélée à un orgasme, moi, j'ai envie de lui dire, bah, si tu te sens vraiment safe avec quelqu'un dans un climat de non-jugement, confiance, etc., bah, allez sous la douche, prends ton vibro et montre-lui, quoi, tu vois. Mais et parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre leur vibro quand ils sont à deux.
Ouais. Surtout à 18 ans, c'est pas forcément facile.
Non, mais déjà, attends, à 18 ans...
Ouais, j'avoue.
Moi, bonjour, déjà, je ne m'étais jamais tripotée, moi, à 18 ans. Aussi, on m'a jamais acheté de brosse à dents électrique. Mais peut-être ceci explique cela, mais non, mais voilà, déjà, c'est hyper chouette. Enfin, c'est qu'elle a déjà exploré, ouais, des choses, clair, etc. Et puis, quand elle s'en sentira capable, elle pourra, si jamais c'est nécessaire pour elle de montrer qu'elle est capable de, d'avoir ce truc un peu sympa. Ouais. Et sous une petite douche, c'est cool.
Ouais. Mais du coup, ma chérie, c'est du pipi, mais c'est pas grave.
C'est du pipi, c'est grave, mais surtout si tu fais pipi en amont, que tu as vidé ta vessie classique, eh bien, tu auras voilà, une urine incolore et inodore. Donc, en fait, c'est la seule précaution qu'il faut avoir pour faire pipi, un pipi qui sent pas. Quoi. Un pipi qui colle à ce que la société attend de notre squirt. Donc voilà.
Ok, bah merci pour ces réponses. J'ai adoré parler de fluide avec vous. Franchement, on pourrait en parler toute la nuit. Mais cet épisode touche à sa fin. Donc j'ai une dernière question pour vous deux. Du coup, le squirt surcoté ou sous-coté ?
Ah bah, la question se pose encore. Non, grave surcoté. Vraiment.
Grave surcoté.
Vraiment. Enfin, même déceptif. Enfin, je pense qu'il y a énormément de personnes.
J'ai qu'on me regardera dans les yeux, genre. Déception.
Oui, voilà, petite déception. Enfin, non.
Vraiment, quand on pense surcoté, on pense Lisa, en fait.
C'est vrai qu'on a envie de. Après, on aurait eu envie que t'écrives un blog, quoi.
Un petit truc. De la cause.
Ouais. Ouais. Je pense absolument pas nécessaire à une vie sexuelle épanouie.
Ok, grave surcoté.
Ouais, je dirais surcoté, je dirais comme toutes les pratiques qui font fantasmer, je pense que ça vaut le coup de s'y frotter, ça vaut le coup de s'explorer. Après, effectivement, surcoté en tout cas, je trouve, dans la réalisation.
Ok, bah écoutez, merci à toutes les deux et merci à vous. Nos auditrices d'avoir été nos potes de soirée pour cette dernière nuit de débauche, en tout cas pour le moment. On n'aurait pas pu rêver meilleure copine de toilette de boîte parce qu'on a kiffé vous raconter nos vies, nos fantasmes, nos histoires et écouter les vôtres. Alors, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, mais en attendant, grosse after dès maintenant sur Instagram femtasy-du-bas-fr. Et vu qu'on est des meufs trop cool avec Lisa et qu'on a envie que vous continuiez à kiffer, on vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code débauche.
Alors, vous l'avez compris, Débauche est une création originale Femtasy. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos potes les plus débauchés, ça marche bien, à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des coms. Et puis, oui, vous pouvez toujours vous abonner. Et on vous laisse. Et voilà.
À bientôt.
À la prochaine.
À bientôt.